Il est 3h, le flash est Majacob. Les viticulteurs et vignerons inquiets des conséquences du changement climatique et de la concurrence étrangère. Une délégation est reçue aujourd'hui par le ministère de l'Agriculture. Une rencontre à la veille de l'ouverture du salon Cité Vie à Montpellier. Rendez-vous viticole international. Eux continuent la bataille contre l'accord avec le Mercosur. Les agriculteurs de la Confédération paysanne se mobilisent à Strasbourg aujourd'hui devant le Parlement européen. Le syndicat exige une opposition ferme sur ce traité de libre-échange entre l'Union européenne et des pays d'Amérique du Sud, pas convaincus par les nouvelles clauses évoquées par Emmanuel Macron. Le futur accord de paix entre l'Ukraine et la Russie devra pleinement respecter la souveraineté ukrainienne, communiqué de la Maison-Blanche cette nuit, après une journée de négociations en Suisse entre responsables américains, ukrainiens et européens. Objectif, trouver un accord sur la base du plan de paix envoyé par Washington à Kiev il y a quelques jours. Le texte prévoit notamment l'abandon de plusieurs régions ukrainiennes à la Russie, des concessions dénoncées par l'Union européenne. Il y a quelques heures, une nouvelle frappe russe a fait 4 morts et 17 blessés dans la ville ukrainienne de Kharkiv, selon les autorités locales. Une visite de 20 minutes sous haute sécurité à Oléron. L'ambassadeur de Russie en France est attendu ce lundi sur l'île pour fleurir les tombes de soldats soviétiques héros de la Seconde Guerre mondiale. Les familles ukrainiennes réfugiées en Charente-Maritime sont vent debout contre cette venue. Le diplomate de Poutine ne recevra aucun accueil protocolaire, précise le préfet. Le Hezbollah confirme la mort de son chef militaire, tué hier dans une frappe israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth. L'homme était l'un des plus hauts responsables de l'organisation islamiste. Une attaque ordonnée par Benjamin Netanyahou. Le premier ministre israélien accuse les autorités libanaises de ne pas en faire assez pour désarmer le Hezbollah. La petite fille de l'ex-président américain John Fitzgerald Kennedy n'a plus que quelques mois à vivre, selon ses médecins. Tatiana Schlossberg, 35 ans, révèle être atteinte d'un cancer en phase terminale. La journaliste a aussi vivement critiqué l'administration Trump et ses coupes budgétaires dans de nombreux hôpitaux américains, ainsi que la politique de son cousin Robert Kennedy Jr., anti-vax assumé en poste au ministère de la Santé. Lui était dans un coma végétatif depuis 20 ans après un accident de scooter en Thaïlande. Le Français Benjamin Danielou est mort à l'âge de 40 ans hier dans un hôpital breton. Sa famille réclamait son euthanasie depuis de nombreuses années. Son agonie a été terrible, témoigne son père auprès d'Issy Armoric, ex-France Bleu. Fin de la 13e journée de Ligue 1 de football hier soir. 0-0 pour Auxerre face à Lyon. Nantes et Lorient se sont neutralisés un but partout. Toulouse s'est incliné à domicile face à Angers 1-0. Brest s'est imposé sur sa pelouse 3-2 face à Metz. Enfin, le Paris FC n'a pas fait le poids face à Lille. Victoire des Nordistes 4-2.
Minuit 5h, c'est la nuit sur France Info.
Ces destins qui font l'info.
Ces destins qui font l'info à présent et pendant tout ce mois de novembre, nous avons rendez-vous avec Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien. On connaît son aversion pour l'immigration, ses penchants ultra-conservateurs, ce qui marque chez elle aussi dans le style. C'est une fougue, une posture, alors quelle est la patte Meloni? Appelez-moi simplement Giorgia, quatrième épisode de notre série, signé Agathe Mahué.
C'est une séquence purement Meloni. En mai 2024, la première ministre se rend près de Naples et rencontre le président démocrate de cette région, Campanie, qui l'avait insulté, traité de stronza, quelques mois plus tôt lors d'une conversation privée, mais divulguée. Voilà donc Giorgia Meloni qui s'approche de lui, Vincenzo De Luca.
Presidente De Luca.
Et droit dans les yeux.
La stronza della Meloni. Come sta?
C'est moi, cette connasse de Meloni. Comment allez-vous? Tout en lui serrant la main. De Luca ne réagit pas et lui souhaite simplement la bienvenue dans la région. Un point pour la présidente du Conseil italien qui revendique ce franc-parler, cette langue jamais dans la poche et cet accent romain. Parfois même ce dialecte de Rome dont elle use parce qu'il la rend authentique et sincère auprès de son électorat. Été 2022, juste avant d'arriver au pouvoir, elle perd un peu sa voix en meeting. Boit une gorgée d'eau et s'excuse. Je vous jure que j'essaie d'être plus calme. Mais bon, les gars, je suis de la Garbatella aussi. Que voulez-vous? Faut que ça sorte. C'est ça la Garbatella, ce quartier très populaire que dévale sur sa Vespa Nanni Moretti dans son film Journal intime, sur une musique de Leonard Cohen.
Il quartiere che mi piace più di tutti è la Garbatella.
Bon, Moretti et Meloni, c'est vrai, ne sont pas du même bord. Et ce quartier périphérique de Rome est surtout un bastion de la gauche où emménage Giorgia, toute petite, après le départ de son père et l'incendie qu'elle provoque en laissant brûler une bougie dans l'appartement cossu du centre-ville qu'il faut quitter.
Le mie radici popolari, no? M'hanno chiamato Pesciarola, Fruttivendola, Borgatara.
Cette jeunesse à la Garbatella lui permet de se revendiquer banlieusarde.
La cultura,
des origines qu'elle ne manque jamais de rappeler.
Sono e sarò sempre fiera di essere una persona del popolo.
Je suis et je serai toujours fière d'être une personne du peuple. Je serai toujours simplement l'une des vôtres.
Una di voi.
Elle incite d'ailleurs ses électeurs à l'appeler simplement par son prénom.
Non presidente, non Meloni, Giorgia.
Giorgia Meloni n'a que le bac, son seul diplôme. Elle raconte volontiers qu'elle connaît les petits boulots. Serveuse au Piper Club de Rome, célèbre scène de rock dans les années 70, devenue discothèque quand Meloni avait 20 ans. La présidente du conseil italien, désormais, a 48 ans. Un débit mitraillette, tempérament déterminé. Elle l'a dit, il faut l'être pour réussir dans un monde d'hommes. 1m60, Giorgia Meloni n'est pas grande, mais on ne voit qu'elle dans les sommets internationaux. Ses grimaces, ses froncements de sourcils notamment, font le tour du monde. L'auteur Emmanuel Carrère, qui couvre le G7 à l'été 2025, dit d'elle qu'elle est la moins poker face de tous. Quand quelque chose l'amuse, elle pouffe de rire. Quand quelque chose l'ennuie, elle lève les yeux au ciel et soupire bruyamment. Et l'écrivain ajoute
« Je sais que Meloni est considérée comme d'extrême droite et qu'il ne faut pas dire du bien d'elle. Disons seulement que cette petite femme blonde détonnait au G7 par une sorte de rudesse enjouée et un dress code sans concession à la grisaille. Au milieu des tailleurs stricts, sa robe bleu ciel, très légère, avait presque l'air d'une robe de plage. »
Dirait-on cela d'un homme ?
She's a beautiful young woman.
Ça ne vous dérange pas que je parle de vous comme d'une belle jeune femme, n'est-ce pas ? S'assure aussi Trump.
You don't mind being called beautiful, right?
Parce que vous l'êtes.
Because you are.
Meloni, surtout, est habile et fine politiquement. Toujours populaire en Italie après 3 ans à la tête de son gouvernement ultra-conservateur. Presque un record de stabilité.
Il nostro governo entra nella lista dei primi 5 governi più duraturi della storia della Repubblica Italiana.
Son objectif, redonner à l'Italie toute sa place sur la carte du monde.
Giorgia Meloni par Agathe Mahuet, 4e épisode de notre série consacrée à la présidente du Conseil italien que vous pouvez retrouver bien sûr sur l'appli Radio France.
Le billet science.
Les découvertes de Bill François, qui est avec Benjamin Fontaine.
On part pour une plongée maintenant avec vous, Bill François. Bonjour, Bill.
Bonjour.
Plongée dans les profondeurs de l'océan pour découvrir une des plus rares baleines au monde. Si rare que personne ne l'avait encore jamais vue vivante. Elle a été observée ces derniers mois. À quoi ressemble-t-elle au juste ?
Elle appartient à la famille des baleines à bec. Ce sont des sortes de dauphins géants de couleur gris-marron avec des défenses qui dépassent de leur bouche un peu comme celles d'un sanglier. Mmh. Ça paraît très bizarre, vous n'en avez sans doute jamais vu.
Non.
Et pour cause, elles sont très difficiles à repérer. Déjà parce qu'elles n'émettent pas de souffle en surface et en plus parce que ces grands timides se cachent la plupart du temps à plus de 3500 mètres de profondeur où ils peuvent rester en apnée plus de 4 heures, les meilleurs plongeurs de tous les mammifères marins. Il existe 24 espèces de baleines à bec, mais on ne sait presque rien sur aucune d'entre elles.
Et parmi ces 24, donc, il y en a qu'on n'a jamais vu.
Et c'était le cas de la baleine à bec à dents de ginkgo. Nommée ainsi car ses dents rappellent les feuilles du bel arbre Ginkgo biloba, qui a le feuillage tout doré en ce moment à l'automne. Cette espèce ne nous était connue jusqu'à présent qu'à travers quelques ossements et cadavres de spécimens échoués. Mais c'était sans compter avec la persévérance d'une équipe de chercheurs de l'Oregon et du Mexique qui a passé 5 ans à la traquer sur toutes les mers du globe sans l'avoir jamais vue, juste en suivant la piste de sons susceptibles d'être ceux qu'elle émettait. Et la semaine dernière, la nouvelle est tombée. Ils l'ont enfin observée de leurs propres yeux au large du Mexique.
Mais comment sait-on que c'est elle si on ne l'a jamais vue ?
Avec une arbalète, les chercheurs ont prélevé un petit morceau de peau et de gras de l'animal et ont donc pu identifier son ADN. Ça a d'ailleurs été très difficile car un albatros a tenté de dévorer l'échantillon. C'était moins une.
Effectivement.
Mais maintenant, on sait donc non seulement à quoi ressemble cette baleine vivante, mais aussi à quoi ressemble son cri, puisqu'il a été enregistré au moment de l'observation. Et en analysant ses sons, on a pu retracer ensuite des parcours de ses congénères à travers le Pacifique. Cette découverte permettra sans doute de mieux protéger ces animaux très menacés par les explosions d'armes sous-marines qui les font s'échouer. Et surtout, elle nous prête à rêver à la part inexplorée de l'océan, dont nous ne connaissons à ce jour que moins de 10% des espèces vivantes. Mmh. La science souhaite donc à cette étrange baleine Ginkgo de revenir nous voir un peu plus souvent et de nous présenter d'autres géants inconnus.
Mais oui, on sera ravis de les rencontrer. Vous reviendrez nous en parler. Merci Bill. Rendez-vous le week-end prochain pour un nouveau Billet Science. En attendant, on vous retrouve sur franceinfo.fr.
France Info Monde.
France Info Monde est en Chine ce soir, pays que vous connaissez bien. Dominique André, bonsoir.
Bonsoir Catherine.
La Chine qui continue de frapper fort contre la nouvelle première ministre japonaise après ses déclarations en faveur de Taïwan. Le gouvernement chinois vise maintenant le cinéma de l'archipel nippon et pas n'importe lequel, Dominique.
Papa,
hey, hey.
Alors, il s'agit de deux films d'animation japonais. Alors, l'extrait qu'on entend, c'est celui des brigades immunitaires. C'est un manga qui a été adapté au cinéma et qui raconte l'histoire d'un père qui élève seul sa fille depuis la mort de sa femme. Le film a fait un carton au Japon. La sortie dans les cinémas en Chine était prévue début décembre, mais elle est reportée sans que les autorités chinoises donnent de nouvelles dates. Il y a aussi un deuxième film pour la jeunesse. C'est la nouvelle aventure cinématographique de Chin-chan, un petit personnage très espiègle d'une célèbre série animée japonaise, Crayon Chin-chan, dont raffolent les enfants japonais depuis des dizaines d'années et qui devait sortir aussi en Chine dans les prochains jours. Mais l'administration du cinéma en Chine, organisme officiel, a considéré qu'il s'agissait d'une décision prudente compte tenu de l'état d'esprit actuel des spectateurs chinois. Alors je me demande bien quand même quel est l'état d'esprit des enfants chinois, ce qu'ils pensent des tensions diplomatiques entre leur pays et le Japon. En attendant donc, ils n'iront pas au cinéma pour voir ces deux nouveaux films. La censure touche toutes les générations en Chine.
Bon, mais c'est pas la première fois, Dominique, que le régime de Pékin s'en prend à la culture.
Mais surtout Xi Jinping, le chef d'État et secrétaire général du Parti communiste chinois au pouvoir depuis 13 ans maintenant. On sait que Xi Jinping a relancé la doctrine marxiste, qu'il a fait inscrire sa pensée dans la constitution chinoise, et sa pensée, c'est la ligne directrice que la Chine doit suivre, notamment sur le plan culturel. Xi Jinping veut limiter l'influence culturelle que peuvent avoir en Chine les pays occidentaux, le Japon, comme on le voit en ce moment avec ses films, et puis un autre voisin, Catherine.
Ah mais ça c'est de la K-pop, la musique pop sud-coréenne, ça veut dire que les autorités chinoises s'en méfient aussi?
Mais oui, tout à fait, ça fait presque 10 ans que ça dure, que la K-pop est dans le collimateur du régime de Pékin. En fait, en 2016, Xi Jinping avait riposté au déploiement du système de défense antimissile THAAD sur une base américaine en Corée du Sud. Il avait imposé un embargo officieux sur les produits culturels sud-coréens, dont la musique pop, la K-pop. En septembre dernier, ce devait être le grand retour de la scène K-pop sud-coréenne en Chine continentale. Et là encore, le concert a été reporté au grand désespoir des nombreux fans chinois. C'est donc sans fin. La censure reste une mesure de rétorsion contre les pays qui osent défier le régime de Xi Jinping.
Quand l'escalade verbale autour de Taïwan affecte la culture japonaise, la Chine suspend la sortie de deux films d'animation japonais. France Info Monde, Dominique André, à retrouver en podcast sur franceinfo.fr.
Né à Versailles avec des origines corses, Jean-Baptiste Laverne-Morazzani est issu d'une famille de restaurateurs. Il a appris auprès de grands comme Yannick Aleno avant de s'installer à son compte à 23 ans et d'obtenir aussitôt l'étoile Michelin. C'est un jeune chef très inventif.
Je veux que mes cuisiniers y cuisinent, que mes pâtissiers pâtissent et qu'ils ne soient pas dans une case. Je veux qu'ils fonctionnent aussi à l'instinct, donc on a vraiment une cuisine comme ça. On essaie qu'elle soit vivante, qu'elle soit acide, qu'elle soit amère, qu'elle soit tiède, chaude, froide, vous voyez, mais il faut qu'elle vive, quoi. Nous, on a toujours été très branchés sur le végétal. C'est vrai qu'on a un plat tout autour de l'oignon qu'on retravaille presque comme une viande. On arrive à trouver des textures, des goûts presque animaux, quoi. C'est d'autant plus bluffant pour un client de se faire surprendre par un oignon que par un filet de bœuf ou agneau. Vous voyez ce que je veux dire?
Jean-Baptiste, vous nous conseillez une table sympa à Versailles?
C'est un restaurant thaïlandais qui s'appelle l'Éléphant d'Argent. Tout est fait sur place, ça me régale de voir ça.
L'Éléphant d'Argent se trouve au cœur de Versailles, passage des deux portes, juste à côté de la place du marché. Il appartient à Guillaume Théa et à sa femme Li.
On a racheté, c'était un restaurant cuisine française avant, en 2003. Et là, on a transformé, on a changé en cuisine thaï. Et on est d'origine du Cambodge, cambodgien, mais on fait la cuisine thaï. Il y a une telle ressemblance en cuisine thaï et cambodgienne. Depuis notre arrivée en France, on est là-dedans, quoi. On est dans la restauration. J'ai travaillé pour les autres et après, j'ai décidé de me mettre à mon propre compte.
Ici, la salle ne désemplit pas. Les clients reviennent à l'image de Patrice.
Très, très bon. C'est le meilleur. Sur Versailles, on mange uniquement ici.
Et on mange quoi en général? Vous mangez quoi, vous?
Tout ce qu'il y a sur la carte, on a tout essayé. J'aime bien salade aux fleurs de bananier.
Entrée à 8 euros, plat à 17, dessert à 8 et une formule déjeuner en semaine proposée pour 16 euros. Li, la patronne, défend sa cuisine.
Tout est bon ici. Ce qu'on fait, c'est notre spécialité. Hein. On n'a pas beaucoup de plats.
C'est quoi les plats principaux?
Fruits mer à l'ail au poivre, fruits mer à l'échalote. Après, vous avez des currys rouges, du curry vert, des plats au lait coco. Et aussi, il y a des plats sautés.
L'Éléphant d'Argent, un restaurant thaï où tout est fait main à Versailles, recommandé par le chef étoilé de la Table du 11, Jean-Baptiste Laverne-Morazzani. Les entretiens sont à réécouter dans leur intégralité sur franceinfo.fr à la page « C'est mon assiette ».
Minuit 5h, France Info, l'info juste. L'Empire des séries, Laurent Vallière.
Retour à Hawkins. La ville vit sous cloche depuis que la porte qui sépare le monde réel et le monde à l'envers est ouverte.
On est bloqué ici.
L'armée surveille, Eleven est traquée. Sur Terre, les jeunes héros, Mike, Will et leurs amis, ont bien grandi. C'est un retour aux sources et finalement la résolution de la grande énigme que propose cette ultime saison de Stranger Things. Les frères Matt et Ross Duffer, créateurs de la série qui règne dessus depuis 10 ans, connaissent la fin depuis presque le début. Matt Duffer.
On a imaginé la scène finale il y a un moment, je ne dirais pas depuis la saison 1, car nous n'étions même pas sûrs à l'époque d'avoir une saison 2, mais nous l'avons en tête depuis au moins 7 ans. Et c'était super, car ça nous donnait une sorte d'étoile polaire, une direction. Par ailleurs, on sait depuis toujours ce qu'est le monde à l'envers, et nous allons le révéler au cours de cette ultime saison.
On trouve Vecna. Et on en finit une fois pour toutes.
Stranger Things a été un succès surprise pour les frères Duffer, qu'ils n'expliquent pas seulement par un mélange d'histoires fantastiques à la Stephen King et de films pour enfants à la Steven Spielberg, digne des années 80. Matt Duffer.
Beaucoup de gens mettent l'accent sur la nostalgie de la série et je pense que cela fait partie de son attrait, le fait de pouvoir revisiter cette période, les années 80 et les films de cette époque. Mais nous avons aussi un public plus jeune pour qui la série n'a pas été conçue. Au départ, la série a vraiment été faite pour plaire à des gens comme moi et Ross qui avons grandi avec ce type de film. Mais si la série a eu autant de succès, ça tient davantage aux personnages et aux ressentis liés au fait d'être enfant. On a tous été des enfants à un moment donné. Donc il y a une universalité dans le fait de grandir et dans les difficultés liées à l'adolescence.
On doit rester fidèle à nous-mêmes et rester fidèle à nos amis.
Si Stranger Things se déclinera ensuite en série d'animation, en spin-off, les frères Duffer ne seront plus à la réalisation. Ils quittent Netflix pour Paramount afin de réaliser leur rêve. Matt Duffer.
Nous sommes très tristes parce que nous refermons la porte sur cette histoire et ces personnages. Travailler avec ces acteurs et cette équipe va nous manquer. La plupart d'entre eux sont impliqués dans la série depuis 8 à 10 ans. Mais une partie de nous est aussi très enthousiaste à l'idée de pouvoir raconter de nouvelles histoires et de faire un film, cette fois pour le cinéma. Donc on est un peu partagé.
William, tu vas m'aider.
Stranger Things, saison 5, les 4 premiers épisodes à partir de jeudi sur Netflix. Le final, long comme un film, le 1er janvier. We'll be right back.
La playlist France Info.
Clic de cœur du service culture de France Info ce matin, Matteo Maestrachi. Le groupe anglais The Stone Roses, un de ses membres éminents, est mort cette semaine d'ailleurs.
Gary Monfield, plus connu par son surnom de Manny, qui est décédé jeudi à 63 ans. Il était né en novembre 1962 à Crumsall, dans la banlieue nord de Manchester, dans une famille d'origine irlandaise. Et c'est après avoir quitté l'école à la fin des années 70 qu'il avait rejoint le groupe The Stone Roses en 1987 en remplacement de Pete Garner, bassiste original du groupe. Deux ans plus tard, en 1989, sort le désormais culte premier album éponyme des Stone Roses, porté par la chanson « I Wanna Be Adored ». Stone Roses qui personnalise alors totalement le mouvement appelé Madchester, jeu de mots avec Manchester, sorte de mélange entre dance, pop et rock psychédélique, en compagnie notamment des Happy Mondays. Et sur ce disque, considéré maintenant comme un des plus influents de l'histoire du rock, la basse de Manny est un point cardinal important de l'ensemble, comme sur cet autre extrait, She Bangs the Drums. Gary Monfield participe aux deux albums studio des Stone Roses. Le deuxième, Second Coming, sort en 1994, deux ans avant la séparation du groupe. Disque plus rock, on y retrouve entre autres ce titre « Love Spreads ». Après l'aventure Stone Roses, Manny avait rejoint le groupe écossais Primal Scream jusqu'en 2011, année où il était revenu en arrière en reformant le groupe mancunien qui a repris le chemin de la scène avec même quelques morceaux inédits jusqu'en 2017. Gary Monfield était aussi un grand fan de Fléchettes et du club de foot local de Manchester United.
Matteo Maestrachi.
Ces chansons qui font l'actu. Bertrand Dical.
Cette semaine, l'actualité musicale, c'est aussi les Beatles. Non pas un de ces concerts à peine audibles que l'on écoute avec beaucoup de compassion pour quatre musiciens qui eux-mêmes s'entendaient à peine jouer en étant sur scène. Non, l'actualité, c'est le 30e anniversaire d'Anthology, la première des compilations de trésors inédits des Beatles, des répétitions, des brouillons, des versions alternatives, des chansons qui ont changé le monde. Et pour fêter l'orgie beatlesienne de 1995, voici que sort le double album Anthology.
Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real.
I'd like to be underneath the sea, in an octopus's garden.
La prise 26 de l'enregistrement de Strawberry Fields Forever, une répétition d'Octopus's Garden, encore des trésors, oui, mais rien de vraiment inédit, puisque ces versions-là sont déjà parues au cours des dernières années sur des rééditions augmentées des albums historiques des Beatles, y compris une chanson de Paul McCartney dont il n'était resté que quelques secondes sur le pressage original de l'album blanc. C'est un peu triste. Nous sommes 55 ans après la séparation des Beatles et il semble bien qu'il ne reste plus rien de nouveau à écouter. Et nous avons même la nostalgie d'une chanson qui, il y a 30 ans, faisait polémique parce qu'il s'agissait d'un titre posthume, mais maintenant, c'est un classique.
Free, as a bird, it's the next best
D'ailleurs, quand on remonte le temps, on se rend bien compte que parler des Beatles, c'est parler de l'éternité, oui, bien sûr, mais aussi d'une expérience générationnelle. En 1964, quand les Lionceaux adaptent Hard Day's Night en français, ils chantent la Beatlesmania au présent de l'indicatif, avant que 13 ans plus tard, Laurent Voulzy, qui l'a vécu, la chante à l'imparfait.
Et les Beatles chantaient,
et les Beatles chantaient,
un truc qui me colle.
Ensuite, les Beatles vont devenir une référence pour la génération qui les a découverts après leur séparation. Ils sont un mythe, certes, mais aussi la réalité d'un répertoire d'une influence encore puissante sur les imaginaires de la chanson française. Entre 2003 et 2013, la figure de Ringo Starr chez la Grande Sophie, Liverpool chez les Whippers Circus, le légendaire concert du Shea Stadium chez Vincent Delerme, la malchance de Peter Best chez Benoît Carré.
Ringo Starr.
Je suis jamais allé à Liverpool, mais quelques amis me l'ont chanté.
Alors j'ai hurlé dans le Shea Stadium. Alors j'ai crié I love you John.
Ils chantent Love Love Me Too, pourquoi ils m'ont viré.
Et ensuite, pour autant que les paroles des artistes des musiques populaires soient un indice, les Beatles deviennent peu à peu une référence, et seulement une référence. Un nom de star puissante du passé, cité parfois un peu au hasard. Entre 2009 et 2022, un vague souvenir chez Aurel San, HKL et Saltimbanque, Roméo Elvis.
Je suis les Beatles pour les jeunes ados.
On fera jamais les Beatles, on n'aura jamais le pognon.
Café, 7h du mat', douche froide, c'était des Beatles.
Ainsi va le temps. Il n'y aura sans doute plus jamais d'inédits des Beatles qui ne sont peut-être plus autant indispensables à la découverte de la pop pour les jeunes artistes d'aujourd'hui. D'ailleurs, ils changent les Beatles. Leur chanson la plus écoutée depuis l'apparition du streaming n'est pas un de leurs numéro 1 de jadis. C'est une chanson de 1969 sur l'album Abbey Road. En voici la prise numéro 9, présente sur Anthology 4, Here Comes the Sun.
Hey, it's alright.
Il est 3h30, le flash Emma Jacob. La paix entre la Russie et l'Ukraine n'a jamais été aussi proche. C'est en tout cas ce qu'estiment les États-Unis après une journée de négociations en Suisse hier. Au cœur des pourparlers, le plan de paix américain proposé il y a quelques jours. Un texte qui sous-entend la capitulation de Volodymyr Zelensky selon l'Union européenne. Cette nuit, Kiev et Washington assurent que la souveraineté ukrainienne sera respectée. La ville de Kharkiv a de nouveau été visée par une frappe russe il y a quelques heures. 4 morts et 17 blessés selon les autorités locales. Gérald Darmanin veut s'attaquer aux règles d'application des peines des narcotrafiquants. Réaction à l'autorisation de sortie d'un détenu de la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil. L'homme de 52 ans doit se rendre aujourd'hui à un entretien avec un possible futur employeur. Une décision du juge d'application des peines incomprise par les syndicats d'agents pénitentiaires. Alors que 8 millions de Français se sont déjà fait vacciner contre la grippe cet automne, les sénateurs ont approuvé hier la vaccination obligatoire des soignants en libéral lors de l'examen du budget de la Sécurité sociale. La mesure avait été rejetée par les députés en première lecture. Les sénateurs en revanche ont dit non à la création d'un réseau France Santé, mesure portée par Sébastien Lecornu pour lutter contre les déserts médicaux, un outil de communication selon le Sénat. Elle ne renonce pas à la présidentielle de 2027. Dans une interview au quotidien Ouest France hier, Marine Le Pen se pose toujours en candidate du Rassemblement National, malgré sa condamnation à 5 ans d'inéligibilité dans l'affaire des assistants parlementaires du FN. Son procès en appel est prévu en janvier prochain, le jugement quelques mois plus tard. Marine Le Pen qui appelle aussi à la démission du gouvernement et à la dissolution de l'Assemblée nationale après le rejet de la partie recette du budget 2026 par les députés. Un autre budget fait débat cette fois chez nos voisins belges. Le pays se prépare à une grève monstre pendant 3 jours pour s'opposer aux économies voulues par le gouvernement. Ce lundi, les transports publics seront fortement perturbé. Mardi, ce sera au tour de la fonction publique avant une mobilisation générale mercredi. Un goûter d'adieu hier au zoo de Beauval. Pour la dernière fois, des dizaines de visiteurs sont venus observer 2 des 4 pandas géants du parc du Loir-et-Cher. Les animaux doivent retourner en Chine mardi. Un départ plus tôt que prévu car la femelle souffre de problèmes aux reins. Le couple de pandas était à Beauval depuis 2012 et a donné naissance à 3 bébés, une première en France. Les handballeuses françaises abordent le mondial sous les meilleurs auspices. Les championnes du monde en titre ont battu le Japon 36-22 hier. Dernier match de préparation avant le début de la compétition pour les Bleus vendredi. Ce sera face à la Tunisie. L'Italie imbattable même sans son numéro 2 mondial Yannick Sinner. Les tennismen italiens ont remporté hier la finale de la Coupe Davis face à l'Espagne. Une victoire pour la 3e année consécutive. Une première dans l'histoire de la compétition.
Minuit 5h. C'est la nuit sur France Info. Le 8-30 France Info, Adrien Beck, Mathilde Sirot.
Bonjour Alice Ruffo.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous ce matin sur France Info, ministre délégué aux armées. Depuis donc assez peu de temps, on va évoquer avec vous un certain nombre de sujets. Ils sont nombreux. Il y a la menace russe, les conséquences en France de ce qui se passe en ce moment, l'enlisement aussi du budget au Parlement, le contexte international. Évidemment, c'est notre premier sujet avec cet ultimatum pour l'Ukraine, accepter ou non le plan de paix de Donald Trump d'ici jeudi prochain, d'ici Thanksgiving. On va parler aussi du rôle des Européens qui semblent se préciser aujourd'hui. D'abord, à vos yeux, ce plan de paix, c'est une capitulation, comme le disent certains, ou il y a des choses à garder ?
Alors, premièrement, la situation, vous l'avez décrite, elle est quand même assez grave. C'est une situation qui est lourde dans la période actuelle, sur le plan international, pour nous, pour l'Europe, pour l'Ukraine, etc. Deuxièmement, il y a ce plan qui a été posé sur la table par les Américains, dont le président des États-Unis d'Amérique dit lui-même qu'il est amendable, qu'on peut travailler, etc. Et troisièmement, il y a la position des Européens. Et la position des Européens, c'est assez simple, c'est-à-dire qu'il y a... Il n'y a pas de scénario dans lequel la dignité et la liberté de l'Ukraine sont négociables. Le président Zelensky s'est exprimé dans un discours le 21 novembre dans lequel il a martelé la question de la dignité et de la liberté, le jour de la dignité et de la liberté. La dignité et de la liberté de l'Ukraine, c'est sa souveraineté, elle n'est pas négociable.
Concrètement, ça veut dire quoi? Parce qu'on a l'impression que les Européens, encore une fois, ont été mis devant le fait accompli avec ce plan complètement rédigé par les Américains, avec un doute d'ailleurs sur l'influence du Kremlin sur la rédaction même de ce texte. Qu'est-ce qu'on peut, nous, obtenir? Quelles sont les lignes rouges des Européens? Vous parlez de liberté, dignité. Ça veut dire quoi sur le terrain, en termes de forces armées, en termes de, aussi de concessions territoriales?
En fait, il ne peut pas vraiment y avoir de paix durable sans les Européens, par définition. Et donc, je vois de la logique de ligne rouge, et c'est très clair que la souveraineté de l'Ukraine n'est pas négociable, je viens de le dire. Mais surtout, pour vous dire très concrètement ce dont il s'agit, c'est qu'au fond, dans ce plan, dans les éléments de ce plan, il y a des choses qui stipulent pour les autres, c'est-à-dire pour l'Ukraine,
pour l'OTAN,
et pour l'OTAN et pour l'Europe. Et ça, il n'y a pas de configuration dans laquelle on ne discute pas avec les acteurs concernés de ce qu'ils doivent faire ou pas faire. Donc c'est ça le principal enjeu.
Alors justement, il y a des délégations européennes qui se rendent à Genève aujourd'hui en Suisse, une délégation allemande, britannique, une délégation aussi française, qui va aller négocier au nom de la France et quelles vont être nos demandes concrètes?
Alors là, il y a déjà une délégation française qui est arrivée à Genève, qui est menée par le conseiller diplomatique du président de la République. Moi, j'y vais après, là, en sortant de ce plateau. Concrètement, d'abord, ce qu'on voulait, et on l'a déjà obtenu, c'est qu'on négocie avec les Américains, avec les
Ukrainiens. Là-dessus, Donald Trump vous a donné le point cette nuit en disant on peut négocier.
Mais en fait, pour être très précise, les Américains disent qu'ils veulent la paix. Et ça, c'est une bonne chose. Nous aussi, depuis le début. La situation est grave, mais elle n'est pas complètement nouvelle. Ça fait depuis des mois que les Américains disent quoi? Ils disent qu'ils veulent la paix par la force. Les Européens veulent la paix. Les Ukrainiens veulent la paix. C'est la Russie qui veut la guerre. Personne d'autre d'une table éventuelle. Donc, au fond, si on veut la paix par la force, eh ben, il faut négocier aussi cet élément de force. C'est là où j'imagine qu'on veut y revenir. L'Europe a pris ses responsabilités. On n'est pas exactement dans la situation d'il y a plusieurs mois. On a mis sur la table la coalition des volontaires, qui se réunira d'ailleurs mardi, et qui permet d'avoir cet élément
c'est
de force.
C'est ça, pour vous, le point essentiel, le point, au fond, pour les Européens qui manque dans ce plan? C'est la question du déploiement d'une forme de force en Ukraine qui, là, ne serait pas prévue par ce plan, ce serait en Pologne.
Un des points essentiels, il y a des éléments qui doivent être précisés. Honnêtement, je vais aller à Genève, la négociation est en cours, il faut dans ces cas-là. Encore une fois, on a déjà vécu des situations comme cet été où il y avait eu la rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump.
Non, ça se répète un peu d'ailleurs.
C'est-à-dire qu'en fait, on travaille beaucoup et qu'on met de plus en plus d'éléments sur la table qui nous permettent aussi d'avancer. Concrètement, il y a une histoire. On a déjà vécu des situations. Alors, c'était Budapest, le mémorandum de Budapest,
94,
puis Minsk, voilà. Où, au fond, on a cru la Russie sur parole en disant... elle a dit, je promets, j'envahirai plus jamais
l'Ukraine.
Rappelons
d'un mot, mémorandum de Budapest, où on estime que, en gros, l'Ukraine doit abandonner une partie de ses armes parce qu'elle sera protégée en cas d'attaque. Et ça n'est pas arrivé.
Voilà. Donc, en fait, là, les éléments de limitation de l'armée ukrainienne, qui sont un élément de limitation de souveraineté, c'est pas acceptable. Parce qu'en fait, l'Ukraine doit pouvoir se défendre. On va quand même pas croire la Russie sur parole. La Russie veut la guerre et la fête à de très nombreuses reprises, au fond, au cours des dernières
années. Donc ça, c'est le deuxième point que vous nous dites qui est bloquant.
Bloquant, j'ai pas dit que c'était bloquant, j'ai dit que c'était sur la table en discussion. Je rappelle que dans la coalition des volontaires, qui a été lancée justement pour travailler sur cet aspect des garanties de sécurité, pourquoi? Parce que sinon il y aura pas de paix robuste, durable, etc. Les Américains sont là, discutent avec nous. Steve Witkoff, vous savez, l'envoyé des États-Unis, était à la dernière réunion de la coalition des volontaires. Donc je dis pas que c'est un point de blocage, c'est un point de discussion.
Est-ce qu'il y a un risque, si jamais l'Ukraine venait à refuser ce plan, qui, pour bien des points, vous l'avez évoqué, lui est extrêmement défavorable. Est-ce qu'il y a un risque que les Américains se désengagent complètement et cessent tout soutien militaire envers Kiev?
Écoutez, je pense que c'est pas dans l'intérêt, en fait, de la sécurité de l'espace euro-atlantique, comme on dit, c'est-à-dire pas dans l'intérêt des Européens ni des Américains de donner une victoire stratégique à la Russie. Fondamentalement, c'est pas dans notre intérêt. Pourquoi aussi? Parce que si cette paix n'est pas durable, si elle n'est pas robuste, pour le coup, il y a un risque. Il y a un risque que la Russie continue et qu'on aille vers une logique de confrontation ou de test. Il y a un risque. Donc, encore une fois, on est des puissances de paix. On est des alliés. Il y a une alliance atlantique qui est faite pour la paix. Et d'ailleurs, les Américains veulent la paix. Il faut dissuader, il faut être fort.
On sait que Donald Trump et Emmanuel Macron ont échangé ces dernières heures. Vous étiez, on le rappelle, conseillère de très proche d'Emmanuel Macron à la cellule diplomatique. Vous avez assisté de nombreuses fois à des échanges entre le président français et le président américain. Qu'est-ce qu'ils se sont dit ?
Alors là, je n'étais pas au dernier échange, mais ce que je sais, c'est pour l'avoir vécu, le premier mandat de Donald Trump et en direct, enfin, c'est qu'il y a vraiment une relation de travail et de confiance entre eux. Voilà, le président est capable d'être extrêmement direct tout en étant très respectueux. Et encore une fois, c'est des relations interpersonnelles qui appuient les relations d'État à État. Et je pense que là, moi, j'ai vu le président de la République commencer à travailler. Je l'ai accompagné dans une partie de son déplacement dans l'océan Indien. Il y a beaucoup de... Enfin, face à beaucoup d'agitation, et on voit, il y a beaucoup de calme, beaucoup de travail, beaucoup de sérieux, beaucoup de coordination, parce que ce dont on est en train de parler, c'est quand même de la sécurité de l'Europe.
Mais il y a aussi
donc il y a de la gravité et de la concentration.
Il y a aussi le sentiment que quand les Européens parlent à Donald Trump, ils arrivent à le convaincre, dont Emmanuel Macron, que quelques temps après, ils parlent à Vladimir Poutine et que la conviction se fait dans l'autre sens et qu'il faut tout recommencer depuis le début à chaque fois.
Je vois ce que vous... Enfin, je comprends ce que vous dites, simplement, on ne recommence pas tout depuis le début.
Si on remet des étapes qui sont franchies quand même.
Si on remet en perspective quand même... pardon, mais sur la paix, l'Ukraine a accepté un cessez-le-feu. Je veux dire, le président de la République était en Ukraine avec ses homologues européens il y a quelques mois. Et vous vous souvenez, on était là pour parler de la coalition des volontaires qui était précisément une coalition pour la paix. Je n'ai pas encore entendu la Russie expliquer comment elle allait faire la paix.
Un mot encore sur les négociations du jour à Genève. Je rappelle qu'il y a cette deadline, cet ultimatum de Donald Trump, donc le 27 au 27 novembre, donc jour de Thanksgiving. Est-ce que c'est envisageable d'avoir un plan sous 5 jours? Ou est-ce que vous dites, là, on commence des négociations qui font partie en fait, d'un cycle qu'on a entamé il y a déjà des mois et qui vont se poursuivre encore?
Alors là, on entre dans une logique de négociation diplomatique où il y a des entrées en négociation qui sont parfois très importantes, très élevées, et puis ensuite on se retrouve et on discute. Donc je ne peux pas préjuger du résultat des négociations avant qu'elles commencent.
À vous dire, en 5 jours, ce n'est pas simple quand on fait des négociations
diplomatiques. Ah non, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. En même temps, pour être honnête, le plus vite on obtiendra la paix par la force, que veulent les Américains d'ailleurs, le mieux ce sera. Mais il faut que mais si on obtient pas cet élément de robustesse et de durabilité de la paix qui passe par le respect de l'Ukraine, eh ben, ça ne tiendra pas.
L'Europe, on le sait, est engagée dans un processus de réarmement. Concernant la France et l'Allemagne, il y a ce projet d'avion du futur, le SCAF, pour système de combat aérien futur. Alors, ça fait longtemps qu'il y a des discussions, c'est très compliqué puisque on parle de mastodontes, hein, Dassault, Airbus, extrêmement concurrents avec des positions pas forcément compatibles. Alors, Emmanuel Macron, lui, il y croit encore, il pense que c'est toujours possible, mais est-ce que c'est pas un aveu d'échec? On a l'impression que ça n'avance pas.
Alors, ça avance. Ça avance. Moi, j'ai fait plusieurs déplacements, dont un à Berlin, pour essayer d'en parler. La ministre des Armées, Catherine Vautrin, a rencontré son homologue. Le président de la République est allé à Berlin. Bon.
Donc, c'est au niveau des industriels que ça bloque?
Ah bah, de toute façon, il y a eu des débats publics qui ont été faits.
C'est Dassault, effectivement, qui veut être chef de file de ce projet.
Je
ne
vais pas vous dire là, maintenant, oui, c'est facile, c'est pas vrai. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est la nécessité. Le SCAF, c'est pas simplement un avion, c'est un système. C'est-à-dire, vous avez aujourd'hui une compétition internationale qui est très forte, avec des acteurs qui sont à la fois parfois nos rivaux et nos alliés qui vont très vite. Et oui, on a besoin d'un avion du futur européen. C'est-à-dire qu'on est dans une situation qui est... Vous voyez ce qui se passe aux frontières de l'Europe, on réarme tous. Il faut absolument qu'on arrive à avoir des moyens qui sont extrêmement compétitifs à l'échelle internationale. Et de ce point de vue-là, la coopération franco-allemande comme la coopération européenne, c'est un atout formidable. Il faut absolument qu'on le joue pour avoir ce fameux avion de 6e génération qu'on veut. Nous, après, on a une position particulière en Europe qui est que... On est une puissance nucléaire, on est une puissance dotée, on a des nécessités qui font qu'il faut que le programme se passe bien, respecte les délais, parce qu'il faut défendre l'Europe, et la France joue un rôle majeur là-dessus, et c'est là que les discussions doivent se prolonger. Il y a une décision qui sera prise en décembre, mais ce que je peux vous dire, c'est que les négociations sont
rapides. Une décision sur quoi ?
Sur l'avenir du SCAF, comment on continue à travailler ensemble.
Juste un tout petit mot quand même, parce qu'on parle du SCAF, mais il y a l'avion qu'on a actuellement, c'est le Rafale, et on parlait de l'Ukraine sans Rafale, c'est la promesse d'ici 2035 pour l'Ukraine. Alors, ce sont des intentions, on n'est pas encore dans une commande ferme. Comment l'Ukraine paye ? C'est nous qui leur payons ou comment ça se passe ? Parce que certains peuvent s'inquiéter, on a vu ces jours-ci, de qui va payer.
Alors, vous avez raison, c'est la question des financements qui est absolument prioritaire, mais... Il y a des financements européens qui sont possibles. La question, c'est comment on les emploie. Ce qui s'est passé avec l'Ukraine la semaine dernière, c'est que c'est très important. C'est quoi ? C'est on va construire ensemble votre armée future, avec notre base industrielle et technologique européenne, à laquelle l'Ukraine aspire. Elle a une aspiration européenne.
Vous pensez que tous les alliés de la France laisseront utiliser des fonds européens pour financer des avions français pour l'Ukraine ?
Mais je pense qu'il faut absolument qu'à un moment donné, on se mette autour d'une table, on mobilise des financements européens. Et quand on dit qu'on veut intégrer l'Ukraine, au fond, que l'Ukraine est la première de nos garanties de sécurité, ce qui est vrai, c'est une armée qui se bat tous les jours, qui nous protège dans la période actuelle, et ben, il faut quand même qu'elle puisse s'appuyer sur les moyens d'une industrie européenne qui est forte, qui est solide. L'industrie française de défense est extrêmement forte. Et donc, il faut permettre de lui donner ses moyens. Ce qui ne sont pas simplement les rafales. Il y a aussi les moyens de protection aérienne. Mmh. Vous avez vu tout ce qui se passe dans le ciel ukrainien. Donc, c'est très important qu'on commence ce chemin irréversible vers nous.
Le 8-30 France Info, Adrien Beck, Mathilde Sirot.
De retour dans le 8-30 de France Info avec notre invitée ce matin, Alice Ruffo, ministre déléguée aux armées. Alors évidemment, on voulait revenir avec vous sur cette déclaration qui a tant fait parler cette semaine, celle du chef d'état-major des armées, Fabien Mandon, qui a donc parlé d'accepter de perdre nos enfants par rapport à cette menace russe et aux conséquences très concrètes sur le sol européen, le sol français. D'un mot, le président l'a soutenu, il s'en est expliqué hier soir lui-même à la télévision. Est-ce que quand même il n'est pas allé trop loin sur la forme ?
Alors moi j'ai relu son discours avant de venir pour relire à tête reposée. Honnêtement, il n'y a rien qui m'a surpris dans son discours, je vous le dis très sincèrement.
Y compris ce passage, voilà, très précis sur nos enfants.
Bah, en fait, c'est sûr que si vous sortez le passage, je crois qu'il a reconnu d'ailleurs lui-même hier.
Que ça avait inquiété aussi.
Ah, de toute évidence. Et simplement, c'est sûr que si vous sortez ce passage et que vous ne parlez que de ça et que vous ne lisez pas la totalité de son propos, oui, je peux comprendre. Mais maintenant, moi, ce qui m'interpelle quand même un peu... Je vais être très sincère. Vous savez, j'ai lu les déclarations, par exemple, de Jean-Marie Bockel, qui, lui, a perdu son enfant au Mali. Et moi, j'ai le monde combattant avec la ministre dans mon portefeuille, donc je suis au contact des familles, des jeunes qui vont au combat pour nous. Et je me suis demandé ce que ces familles-là, qui parfois perdent dès leurs... là, c'est récemment le cas, on a rendu hommage à une jeune femme qui est tombée au Liban, à un jeune homme qui est tombé en Guyane. Je me suis demandé ce qu'elles pensaient quand elles entendaient ces polémiques. Ce sont des gens qui... Il n'y a pas de paix sans défenseurs, et ces gens-là, ces jeunes s'engagent militairement, et ils nous défendent. Donc, je voudrais juste rappeler ça, parce que dans toute la polémique qu'il y a eu, j'ai l'impression qu'on les a un peu laissés de côté, et c'est pas bien.
Et à ce propos, vous parlez justement de ce monde combattant. On voulait voir avec vous ce que prépare très concrètement le président de la République. Il y a bien sûr ce service national volontaire, qui est donc un des projets du gouvernement. Et ce matin, la Tribune dimanche annonce que le président Emmanuel Macron s'exprimera cette semaine, peut-être jeudi, pour détailler cette nouvelle formule et ce nouveau cadre pour servir au sein de nos armées. Et le journal précise les modalités. Alors, service militaire basé sur le volontariat dès 2026, accessible à partir de 18 ans, payé entre 900 et 1000 euros par mois pour une durée de 10 mois. Est-ce que vous confirmez ce matin, Alice Ruffo, toutes ces pistes qui ont été dévoilées dans la presse ?
Alors, je confirme que depuis le 13 juillet dernier, quand le président s'est exprimé à l'hôtel de Brienne pour son discours habituel, traditionnel, il a demandé au ministère des Armées de travailler sur un cadre d'engagement renouvelé. Et donc oui, je confirme qu'il y a des travaux en ce sens. Vous avez parlé de volontariat. Je pense que c'est effectivement un mot-clé. Et je veux peut-être juste un peu donner des éléments d'explication et de contexte. Vous le savez, dans plusieurs pays européens, en ce moment, des réflexions là-dessus. La semaine dernière, j'ai reçu mon homologue suédois, qui est un modèle qui est en train d'être développé dans pas mal de pays européens. Bon, tout le monde y travaille, donc nous aussi on y travaille.
C'est cette semaine que ça va être annoncé ?
Ça, je ne sais pas.
Alice Ruffo, 50 000...
On y travaille, oui.
50 000 personnes, 50 000 volontaires d'ici 2035, c'est un horizon qui est réaliste.
Alors, vous savez, on a déjà, dans la loi de programmation militaire telle qu'elle a été votée, parlé de l'augmentation de la réserve opérationnelle. Donc ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'on constate quand même ? On constate, qu'il y a quand même une vraie volonté d'engagement. Voilà, elle existe, on peut avoir des débats, des polémiques, etc., mais il y a une volonté d'engagement. Deux, il y a différentes formes d'engagement. Il y a l'engagement militaire qui implique quand même des risques et des sacrifices très importants. Il y a d'autres formes d'engagement aussi qui peuvent être utiles et d'autres formes de compétences qui peuvent être utiles. Et la deuxième chose qu'on observe, c'est que face à la conflictualité qui est la nôtre, il y a beaucoup de compétences qui sont requises dans beaucoup de cadres. Et qu'on doit absolument les utiliser. Une de nos très grandes forces, en Europe et en France en particulier, c'est qu'on a une jeunesse qui a des compétences technologiques, qui a des compétences qui doivent absolument pouvoir trouver un cadre pour notre défense
commune. Mais très concrètement, pour ceux qui nous écoutent et qui se disent « Tiens, j'ai un enfant de 18 ans » ou même des jeunes qui nous écoutent, ça consiste en quoi ? C'est 10 mois où on va servir concrètement dans l'armée dans le but de l'intégrer, ou 10 mois dans le but de faire partie de la réserve, ou 10 mois juste une expérience comme ça pour voir à quoi ça ressemble ?
Vous venez très bien de résumer les choses, il y a différents cadres. Après, il est clair, et moi je travaille au ministère des Armées, que le métier des armes est un métier particulier et qu'il est possible de s'y engager, mais sur une base évidemment volontaire. Après, il y a d'autres formes d'engagement qui sont utiles à la défense du pays, qui peuvent être sollicités.
Il faut que ce soit rémunéré un peu quand même, on disait 900 000 euros par mois.
Ah bah écoutez, je vous dis juste qu'on y travaille, mais ça sera vraiment au président de le faire. Non, ce qui compte, c'est de faire confiance à la jeunesse et de lui donner les moyens d'avancer. Donc oui, y compris de cette manière-là.
Un tout dernier mot pour finir. Est-ce que vous êtes inquiète, Alice Ruffo, sur le fait que les crédits militaires soient bien portés à la hausse ? On sait qu'il y a 6,7 milliards d'euros qui sont prévus dans ce budget qui s'enlise au Parlement. Est-ce que, même si on passe par une loi spéciale, c'est ce que le gouvernement a esquissé cette semaine, ces crédits supplémentaires pour l'armée sont garantis ?
Non. Il faut qu'on ait un budget et il faut que le Parlement puisse l'adopter, parce que on peut pas juste se contenter de reconduire les crédits de l'année dernière. C'est un problème. Je suis pas inquiète, je suis déterminée. Il faut qu'on ait cette surmarche, ces 6,7 milliards, parce qu'il s'agit de notre sécurité. Et là, je crois que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut augmenter les moyens de la défense.
Et on entend votre appel, effectivement, à ce qu'il y ait un budget. Merci beaucoup, Alice Ruffo, ministre déléguée aux armées, d'avoir été l'invitée du 8:30 France Info. Merci, Mathilde Sirot.
France Info, la nuit, l'info revient dans un instant.
France Info Junior.
Dans France Info Junior, avec une visite guidée de l'exposition Manga Tout un Art. C'est à voir au musée Guimet à Paris et c'est en compagnie de Cécile Ribeau-Cailleul et de son invité.
Au milieu des porcelaines, sculptures et des estampes japonaises, place au manga qui orne les murs du musée Guimet. Manga Tout un Art, c'est le titre de cette exposition exceptionnelle qui vient d'ouvrir au musée Guimet et jusqu'au 9 mars prochain. Bonjour Estelle Bauer.
Bonjour.
Vous êtes la conservatrice des expositions japonaises du musée Guimet. Un grand merci d'ouvrir les portes de ce magnifique musée à nos journalistes en herbe du jour. Ils s'appellent
Gaston, Alexandre, Mathieu et Adam.
Je crois qu'on peut partir pour une visite guidée qui va être exceptionnelle avec vous. Cette Bauer. On vous suit ?
Ouais. Donc là, on arrive dans la première salle dans laquelle on trouve à la fois des planches de manga, donc des vrais dessins faits par des mangaka, et aussi du théâtre de papier, le Kamishibai, qui est un peu l'origine, enfin une des origines du manga, c'est-à-dire c'était comme du théâtre ambulant, mais avec un conteur qui raconte des histoires avec des planches qu'il montre les unes après les autres.
Qui a créé le premier manga et en quelle année ?
Ouais, alors ça, c'est une bonne question, mais c'est difficile de répondre et de dire exactement en quelle année. En tout cas, dans l'exposition, le manga le plus ancien qui est présenté, disons un vrai manga avec des cases et des bulles, c'est Norakuro, donc Norakuro, le petit chien noir, un chien soldat, et qui a été inspiré par Félix le Chat. Vous pouvez voir ici. Hein. En fait, c'est avant la guerre, ça date des années 1930, et là, c'est plutôt proche de la bande dessinée, mais on lit déjà de la droite vers la gauche. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, c'est vraiment déjà la bande dessinée en noir et blanc. Mais ça ressemble un petit peu à du théâtre en fait. On a l'impression que les personnages sont debout sur la ligne de la case, comme s'ils marchaient sur une scène de théâtre.
Pourquoi les mangas sont dessinés en noir et blanc ?
Ah, alors là, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est une raison économique, comme ils doivent produire de manière très rapide. Ben voilà, on dessine juste et... Parce que mettre la couleur, appliquer la couleur, ce serait plus long. C'est aussi moins cher d'imprimer en noir et blanc. Et puis, je pense qu'il y a aussi une tradition au Japon. Hein. Le Japon, c'est un pays où, depuis des siècles, où on écrit et on dessine avec un pinceau et de l'encre. Donc, il y a un vrai goût pour le noir et blanc.
Que signifie le mot manga ?
Ça, c'est une question qui n'est pas simple. En fait, le mot manga, au départ, ça signifie dessin varié. Ga, ça veut dire dessin. Et man signifie varié, spontané, l'idée aussi de quelque chose qui est très vaste, un peu comme un océan. Donc on peut traduire aussi par océan d'images. Mais le mot ensuite a évolué et donc à la fin du 19e siècle, les Japonais l'ont utilisé pour traduire le mot caricature. Et c'est seulement dans les années 1920 à peu près qu'il a été utilisé pour traduire le mot bande dessinée. Ça, c'est un Dragon Ball. Voilà, vous voyez, c'est un dragon. C'est une statuette qui a été offerte par le shogun à Napoléon III, il y a à peu près 150 ans. Si vous regardez bien, on voit qu'il y a un dragon qui semble émerger des flots et qui porte une boule de cristal. Donc, vous voyez, l'idée d'associer un dragon à une boule de cristal, en fait, ça existait déjà bien avant la création du manga.
Sur cette boule de cristal, j'ai remarqué qu'elle est transparente, alors que dans Dragon Ball, elle est plutôt orange et il n'y a pas les étoiles dessus.
Ah, bah c'est une belle remarque. C'est pas exactement la même chose, effectivement. Dans Dragon Ball, l'auteur a dû s'inspirer de la tradition, mais il l'a réinterprété, il l'a transformé à sa manière.
Je voudrais savoir dans quel manga on peut retrouver la grande vague de Hokusai.
Alors, la grande vague de Hokusai, on la retrouve encore dans One Piece.
Et on la retrouve dans cette exposition aussi ?
Alors oui, dans cette exposition, on la retrouve. Donc on va voir la vraie grande vague de Hokusai, mais on va aussi voir comment est-ce qu'elle a été déclinée dans la bande dessinée contemporaine française.
Et je voulais vous demander si dans cette exposition, il n'y avait que des mangas japonais ou aussi des français ?
Que de mangas japonais. C'est vraiment une exposition sur le manga japonais, mais l'affiche a été faite par un mangaka français, Renaud Lemaire.
Il y a combien d'œuvres qui sont exposées ici ?
En gros, il y a à peu près 600 œuvres qui sont exposées, donc c'est considérable. Et il y a environ 130 pages de planches originales de mangas.
Merci beaucoup à nos journalistes en herbe de France Info Junior et à vous surtout, Estelle Bauer, conservatrice des collections japonaises ici au musée Guimet.
Manga tout en art.
C'est jusqu'au 9 mars.
Il ne faut pas la rater.
Arigato gozaimasu.
Arigato gozaimashita.
Sayonara.
Estelle Bauer avec Cécile Ribaud-Cayol et ses journalistes en herbe dans France Info Junior. C'est à réécouter sur franceinfo.fr et l'appli Radio France.
La nuit sur France Info, minuit 5h.
La playlist France Info.
Les coups de cœur du service culture, c'est la playlist comme chaque dimanche. Yann Bertrand a choisi pour nous Diziz, artiste infatigable, sensible et en constante évolution qui vient de sortir son nouvel album.
Nous l'avions connu en tant que Diziz la peste il y a plus de 25 ans avec un tube resté dans les annales chroniques du burn-out et de la misanthropie, je pète les plombs. Mais depuis quelques années, Diziz a fait sa mue, évoluant en artiste pop à la sensibilité et au romantisme exacerbé, comme le prouve ce 14e album tout juste sorti, On s'en rappellera pas, lequel contient notamment ce titre, Mélodrama, en duo avec la nouvelle star Théodora.
Tout à ton bonheur de me vouloir du mal, moi je suis venu pour l'amour, pas pour le tribunal, je plaide coupable de toute façon, y'a l'enfance dans l'équation. Que t'aurais pas Shazam, j'suis comme un con dans ce mélodrame.
Les relations amoureuses ou tout simplement le sentiment amoureux sont le carburant essentiel de ce disque, une nouvelle fois très personnel. Diziz s'y raconte en profondeur, son enfance, ses failles, les drogues, les amours physiques et platoniques. Et par moments, la résurgence d'un flot acide et politique, comme sur le morceau Fin.
Pilote auto, la tête à l'envers, la pure hollandaise. Vers les étoiles, je file à l'anglaise. Vers les vents chauds, très loin des vents d'est. Brunet la tempête, j'estime mes pampères. Je descends en passant, je serai pas remplaçant. Toujours hôtel ou en déplacement. La vie que je mène, c'est sans relâchement. T'es dans la ligne blanche, moi je tiens la distance. J'ai la vista et j'ai la liste. J'ai la grinta, s'ils égalisent. C'est quand on perd qu'on prend des risques. Ils voulaient me faire, mais je l'ai mise. Tous les fachos, les Julie Lesco, les hommes sauvages, t'arcotes de l'asco. C'est pas stylé de mettre la hagla. L'amour vaincra pas ton armada. Putain, j'ai tout, je suis comme à la main. L'époque rend ouf, donc je la me da. Faut que je me barre de là, faut que je me barre de là. Mais ça ferait plaisir à se barre de là.
Un album né de toutes ses inspirations, chansons françaises, rock, électronique ou hip-hop. Diziz poursuit son évolution et fait durer le succès.
Le nouvel album de Diziz, On s'en rappellera pas, la playlist de France Info de ce dimanche, signé Yann Bertrand.
France Info, la nuit, l'info revient dans un instant.